Alors, passons aux choses sérieuses. Coil.
Alors, qu'est-ce que. Alors là,
Alors
c'est
là, on...
l'Amérique.
bah oui, c'est un peu l'Amérique, puisque Showing Bristol, c'est un groupe moitié américain, moitié anglais. C'est un ovni. C'est de la musique électronique, de la musique industrielle post-punk du début des années 80. Alors ça, c'est une belle rencontre, c'est une histoire d'amitié aussi. Avec la radio, comme ça, on fait des rencontres et je rencontre un type qui écoutait des trucs mais complètement dingues, c'était des choses inaudibles. Parmi ses disques favoris, il y avait le premier album de Coil, qui moi m'a séduit tout de suite, je sais pas pourquoi, peut-être un peu plus mélodique que le reste de ces choses très obscures, très sombres. Quelques années, beaucoup plus tard, je sais plus comment, et c'était devenu un groupe électronique. Je crois que c'est en boîte de nuit. Il y avait eu un remix qui passait en boîte, je crois que c'est par là. Truc bizarre. C'est une musique extraordinaire. Je connais peu de musiciens qui sont allés aussi loin dans la recherche et dans l'exploration des possibilités de la musique électronique, tout en faisant de la musique toujours finalement audible, enfin, accessible. Il y a toujours de la mélodie, même si c'est des expérimentations compliquées, il y a toujours sur un album une perle, une vraie chanson qui pourrait être chantée par, je sais pas, Lady Gaga ou n'importe qui pourrait faire un tube. Donc c'est cette complexité-là qui me plaît chez eux. Et pas de... Ils ne sont pas dans une chapelle, ils sont pas... Seul le plaisir compte. Et puis il y a aussi derrière, comme la plupart des gens que j'aime bien, c'est souvent des personnages, des personnalités très fortes, des artistes assez accomplis. Ils font tout. Ils font tout. Ils font le... Au-delà de la musique, ils s'occupent aussi de la distribution, ils s'occupent du visuel. Enfin, ils faisaient parce que malheureusement, ils sont morts. C'était aussi un couple assez étrange. Deux garçons dans des errances avec des préoccupations de comment dire ça. Il y avait aussi un travail sur le corps avec eux. Dans les performances, c'était au-delà de la musique, c'est des performances aussi qui engagent le corps, avec pas loin du body art. C'est un peu l'art total pour moi. Je pense qu'ils ne sont pas très connus, mais un jour on écrira des thèses. J'ai appris que leurs archives avaient été achetées par une université. Le problème, c'est que les disques sont très très difficiles à trouver, donc là, c'est précieux. C'est des éditions très limitées, et puis on les trouve très très difficilement. C'est dommage, parce que je pense qu'ils mériteraient d'être beaucoup plus connus. Je les ai vus 4 fois. Et à Limoges, c'était très, très, très étrange, parce que bon, Limoges, c'est le Limousin, c'est la patrie de l'accordéon, du bal musette, la bourrée, tout
la
ça.
Vieille à la roue.
La vieille à la roue. Et ils ont fait un concert avec des vieilles à la roue. Des vieilles à la roue qui sonnaient pas vraiment comme de la bourrée limousine. Donc c'était assez rigolo, quoi. Donc j'ai choisi ce disque-là, c'est un double qui s'appelle Music to Play in the Dark, et ça fait peur. Vous mettez ce disque et vous êtes dans le noir et vous avez peur. Les monstres sortent de partout. C'est une expérience. Par contre, c'est le genre de disque que j'écoute pas souvent, ça s'écoute vraiment, quoi. C'est pas... On ne met pas ça dans l'autoradio, c'est pas Jeanne Moreau. Et donc, dans la même famille, une découverte plus récente, il y a 4-5 ans, North Swiss Bond. Alors, qu'est-ce que c'est North Swiss Bond? C'est un groupe. C'est pas vraiment un groupe non plus. C'est des musiciens qui font de la musique concrète, qui utilisent des bandes, des collages sonores et qui fabriquent quelque chose avec ça. C'est presque de la sculpture sonore. Et voilà, c'est pareil. Ce que j'aime chez eux, c'est l'extrémisme. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent faire un album de 4 heures sur la musique imaginaire qu'on pourrait écouter dans l'espace. Là, sur celui-là, sur ce que je vous ai amené, c'est très dada. Enfin, je suis très inspiré par le mouvement dada.
I'll bake your bread and tend your house.
Trois pin-up assis sur un piano avec un type derrière qui pourrait être un Sinatra.
Des pin-up avec un visage asymétrique.
Ouais, voilà. Elles ont été un peu retouchées sur l'ordinateur, du coup elles ont un œil plus bas que l'autre, la bouche de travers. Et derrière, il y a des obus. Des obus qui pourraient être de la guerre de Logan, la guerre de 40, qui sont inspectés par un homme à chapeau. Là. À côté, on voit une pin-up assis sur un. Je sais pas quoi, enfin, il y a un tuyau d'orgue, et derrière, des soldats de la guerre de 40 avec des masques à gaz.
Et
je sais pas, c'est quoi, des vis ou des serpents?
Vis de tire-bouchon.
Ah, c'est les tire-bouchons.
Ah oui, j'imagine.
Ah ouais, oui. Ouais, ouais. C'est limite audible, mais bon, voilà, ça fait partie aussi des choses qui me touchent et que j'aime bien.
Mais ça, ça date de quand, ça?
C'est un truc que j'ai découvert il y a 4-5 ans, en fait. C'est pas très vieux. Mais ça c'est un peu pour parler d'Internet. Parce que je me suis mis à Internet il n'y a pas si longtemps.
Ah oui, après avoir longtemps
résisté. Et finalement, c'est bien Internet, parce qu'on découvre des trucs bizarres. Voilà. Et donc, pour revenir à la musique plus audible...
Mais attends, j'avais ça, oui. Ça, tu l'as découvert sur Internet.
Je l'ai découvert sur Internet en essayant de me renseigner autour de Coil. Par des liens.
C'est passé par Coil.
Voilà, c'est
des liens en lien sur
voilà.
Internet.
Voilà. De temps en temps, je m'arrête sur un truc qui me marque. Et Internet aussi, Animal Collective. Parce que c'est par Internet que j'ai découvert Animal Collective. À force de lire leur nom dans des interviews de groupes obscurs, voilà, je suis allé écouter et effectivement, je suis tombé. Je suis tombé raide dingue de ce groupe que j'ai vu alors là, je sais pas, 8, 7, 5, 6 fois.
Ah oui.
Tout le public s'en souvient en général quand tu
l'as vu. Oui, ça me met dans un état.
Tu frôles la transe.
Il y a encore le billet.
Il y a encore le billet dedans. Ah oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas fait gaffe. Ah ouais, c'est génial. C'était au Cabaret Sauvage, 2007. Alors, Animal Collective, c'est difficile de décrire ce que c'est de la musique à la radio. Hein. Vous mettrez des extraits sonores. C'est un groupe de Brooklyn. C'est comme beaucoup de groupes que j'aime, souvent des gens qui ont fait des études d'art. Et qui ont digéré un peu toute l'histoire du rock, toute l'histoire de l'Amérique, pour en faire une espèce de medley assez improbable. Et en concert, on ne sait jamais ce que ça va donner. Ça peut dériver, ça peut virer à la trance ou à la trance, enfin le genre musical, la rêve partie, quoi. On n'est plus du tout dans le rock, mais on y est quand même parce que c'est quand même des guitares, c'est quand même une batterie, c'est quand même un chanteur. C'est la musique est fabriquée en direct, mais elle part dans des directions assez inouï. En même temps, leurs sources, elles sont pas très originales. Hein. C'est le rock 60s des années des américains, c'est le psychédélisme. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que d'avec les mêmes sources que les autres, ils font une musique qui ressemble à rien. Tout en jouant avec une guitare, une batterie et un chanteur. Alors j'ai choisi ce disque comme Firesong. Parce que c'est mon préféré. Alors qu'il c'est le plus atypique, mais c'est mon préféré parce qu'il y a une douceur, il y a une sérénité sur ce disque. Je pense qu'il a été enregistré en plein air. Comme Firesong, c'est les chansons qu'on chante autour d'un feu de camp.
Comme ça, on l'a dit.
Voilà, quand on est ça évoque l'été, la plage, l'ambiance avec les copains, voilà. Et c'est une espèce de longue plage avec une guitare très peu retouchée. Et le chanteur qui chante une espèce de mélopée un petit peu orientaliste, enfin c'est très étrange. Et en même temps c'est familier, ça sonne comme si on avait toujours entendu ça. Je suis revenu aux sources. Bob Dylan, c'est ma découverte la plus récente. C'est un peu grâce à un monsieur là et à une autre collègue qui m'en ont bassiné. Je me dis, c'est pas possible, tu connais pas Bob Dylan, c'est pas possible. Et un jour, il y a un supermarché qui a décidé d'arrêter de vendre des disques, qui liquidait tout leur stock. Et comme ça, pour 10 euros, j'ai acheté les 5 premiers albums de Bob Dylan. Je me suis dit, je prends pas de risque, allez. Et puis j'ai écouté, et franchement, je comprends pas pourquoi j'avais pas écouté Bob Dylan. C'est absolument extraordinaire. Et il y a des trucs que j'avais pas compris, que maintenant je comprends. Ça n'en a jamais fini d'apprendre. On fait des liens petit à petit. Et effectivement, dans la musique de Christina, c'est quelque chose d'assez dylanien. Un abord de la musique assez proche. Voilà, alors là j'ai amené Blood on Track parce que c'est un album assez qui parle d'une rupture amoureuse. C'est bien celui-là, je me trompe pas. Ouais. Et ce qui me touche, c'est comment arriver à faire quelque chose d'extrêmement fort, comment faire quelque chose de positif à partir d'une expérience douloureuse. Et comment l'art peut vous aider à remonter la pente ou être quand on traverse des choses difficiles. Voilà, c'est mon disque préféré de Dylan. Mais ça m'a fait un choc, hein. Mince, quand même, comment j'ai pu passer à côté de ça. Mais quelqu'un. Alors attends. Je rassemble mes idées. Il me parlait d'un prof qu'il avait eu, qui leur disait, plutôt que de les engueuler quand ils n'avaient pas lu un livre, il leur disait, oh, vous avez de la chance, vous ne connaissez pas encore. Alors, voilà, c'est ça. Moi, j'ai de la chance, j'ai découvert Bob Dylan à 40 ans passé. Someone's got it in for me. The planting star is in the press. Whoever it is, I wish they'd cut it out. When they will, I can only guess. They say I shot a man named Gray and took his wife to Italy. She inherited $1 million and when she died, it came to me. I can't help it if I'm lucky. People see me all the time and they just can't remember how to act. Their minds are filled with big ideas, images, and distorted facts. And even you, yesterday, you had to ask me where it was at. I couldn't believe after all these years, you didn't know me any better than that, sweet lady. Idiot me. Oh, and every time you move your mouth. Going down the back roads heading south. Yeah. Oh, and every time you move your teeth, you're an idiot, babe. It's a wonder that you're still not how to breathe. d'un sondage. Je le trouve assez fascinant. C'est un personnage assez fascinant. Au-delà de la musique. Le Velvet, c'est fondateur, évidemment. Sans le Velvet, il n'y a pas de Jesus and Mary Chain, pas de Bloody Valentine. Mais le Velvet, ce que je préfère, c'est le premier album, c'est les chansons plus douces. Mm-hmm. On pourrait rêver de Jeanne Moreau qui chanterait Femme Fatale, par exemple. Mm-hmm. Ce serait extraordinaire. Mm-hmm. Ça me plairait bien. Alors, dans les personnages comme ça, un peu fous, un peu énigmatique, il y a Julian Cope. Je ne peux pas ne pas en parler. Alors, Julian Cope, c'est pareil, c'est dans les années 80. C'est à la télé. À la télé, il y avait Les Enfants du Rock. C'était un des dadas de Lenoir à l'époque. Et il le montrait sur scène, habillé tout en cuir, tout monté sur un micro. Je ne sais pas si tu te rappelles, il s'était fait fabriquer un espèce de micro-perchoir du haut duquel il menaçait le public. Donc j'ai trouvé ce type assez fascinant, je suis allé gratter un peu plus et j'ai découvert un personnage de conte, quoi. Il est un peu comparé à personne, enfin je sais pas comment le décrire, mais une espèce de druide rocker, un utopiste, mais qui échoue, quoi. Il prêche dans le désert, personne ne le suit, enfin moi, mais de loin. Et puis... Mais ces disques sont vraiment extraordinaires. Et j'ai rencontré des gens comme ça, des fois comme ça, on discute dans un café ou dans un lieu à l'armée. J'ai rencontré un type qui adorait Julian Cope. Donc il a des fans.
Tu as écouté son dernier disque ?
Non, j'ai pas écouté son tout dernier. Le tout dernier, non. Comment il s'appelle ?
Revolution Rock, ou c'est que des chansons sur les révolutions, la révolution. Voilà.
C'est la suite de Black Sheep, alors qu'il avait. J'ai amené l'avant-dernier, justement. Le dernier, je l'ai pas écouté. Mais. J'ai amené l'avant-dernier parce qu'il y a un calendrier au centre de la pochette avec les personnages révolutionnaires selon lui. Donc, c'est drôle parce que on trouve Eddie Cochran, Yoko Ono. Il y a aussi Leila Khaled, l'égyptienne. Il y a Einstein. Puis il y a des gens que je connais pas.
Jung,
Morrison, Eddie Cochran. Alors Vakel Lindsley, je ne sais pas qui c'est. Tu connais Vakel Lindsley? Non, voilà. Donc c'est un espèce de... Je dis un druide moderne parce qu'il s'intéresse beaucoup à la culture celte et il est persuadé qu'il est chargé d'une mission presque messianique de répandre la paix sur terre. Et il trouve son inspiration dans la tradition celte.
Il vit aux abords d'un site mégalithique sur lequel il a écrit un livre qui fait référence. D'ailleurs, il y a plusieurs
livres très sérieux
qu'il a écrit qui font référence, comme celui sur le krautrock, qui a été traduit en français en partie.
Qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est très intéressant.
D'accord. Et celui sur le rock japonais, sur le rock de l'époque japonaise, puis celui sur le site mégalithique. Je crois que ce qu'il veut, il veut aussi prouver que la chrétienté a tout pris au celtisme et que derrière le mensonge des religions se trouve la vérité archaïque du druidisme et qu'il est lui-même l'archidruide, il se dit archidruide.
Et c'est par le rock que ça doit passer, qu'il doit transmettre tout ça. Le plus étrange, c'est qu'on adhère, quand on écoute, on y croit presque. Et voilà. Mais d'un point de vue purement musical, c'est vraiment très très bien, c'est du très bon rock. C'est vraiment peut-être mieux que beaucoup de trucs qu'on entend ou qui sont à la mode. Voilà. Il est vraiment à fond là-dedans. Personnage atypique, mais moi qui me fascine aussi, que j'aime beaucoup. J'achèterai le prochain de nouveau.
Il est très bien. Il est vraiment très bien.
Bon, je sais pas, vous voulez. J'en sors encore des trucs là ou... le temps d'arriver.
Selon le temps où tu exploses encore.
Bon, allez, 5 minutes pour encore un
deuxième. On a dit qu'on va dépasser de 5 minutes.
Encore, allez, pour finir avec mes marottes, mes personnages, c'est un petit peu mon... C'est mon petit musée des horreurs. Un petit coup de Momus. Momus, c'est un musicien alors, qui a commencé sur 4Eddy, j'avais pas réalisé au musée. J'avais pas réalisé tout de suite, mais il a commencé.
C'est quoi, 87?
Ouais, 86, ouais.
C'est une compile avec un morceau de Momus.
Oui, oui, oui.
Maurice Cowboys of Maurice Intellectual.
Doing for the Frog. Ouais, j'ai amené ça aussi pour Momus. Il a d'abord commencé sur label 4Eddy avec un groupe qui s'appelait Happy Family. Et puis ensuite, il a signé sur le label Creation. Et au départ, c'était de la musique plutôt dans la tradition anglaise, plutôt pop, guitare ou un petit chanson à texte. Je sais pas moi, qui est-ce qu'on pourrait.
Aujourd'hui, ça serait de l'antifolk.
Ça serait de l'antifolk. Ouais, voilà, exactement. On dirait que c'est l'antifolk, effectivement.
Non, je l'ai aussi, ce disque.
Eh ben, et tu as pas, t'as pas écouté Momus. Ah, tu vois, on n'a pas tous les mêmes mots. C'était 89. 89.
Il y a un morceau de Big Banco, un groupe dont un des membres est Rémois d'ailleurs.
Ah oui, je savais pas.
Jean-Christophe Rouche.
Il y a les Snitches aussi sur cette compil.
House of My Bloody Valentine.
Non, ils sont pas.
Il y a pas un instrumental de My Bloody Valentine.
Si, il y a un instrumental, un inédit d'ailleurs, qui est nulle part ailleurs.
Ah d'accord. Et cette très belle chanson de House of Love, qui est un groupe que j'aime bien, mais Blind, qui est une chanson que je trouve tout à fait extraordinaire.
Une très belle compilation.
Et donc il y a Momus dessus. Mais alors lui, bien évidemment, il n'a pas fait la carrière qu'ont fait les autres. Il a pris des chemins de traverse très étranges. Il a une vie complètement romanesque, puisqu'à un moment il s'est marié avec une Pakistanaise qui a valu ou une Indienne.
Une Japonaise en tout cas. Après
une Japonaise. Mais avant la Japonaise, issue de la communauté, je crois qu'elle est pakistanaise, voilà. Ce qui a valu la famille. Les a poursuivis, ce qui fait qu'il est parti au Japon, c'est pour ça. Hein. Quand on suit la discographie de Momus, en fait, on lit un journal intime. C'est plus un écrivain qu'un. Pour moi, c'est plus un écrivain qu'un musicien. C'est comme un journal intime, ça me fait penser un peu au journal d'Anaïs Nin, des gens comme ça, qui racontent un peu leur parcours, leur vie, à travers les chansons. Chaque album est la suite du précédent. Et ça depuis 20 ans maintenant. Et j'attends toujours le prochain. Donc là, je vous en ai amené un peu au hasard parce que dessus, sur celui-là, il parle beaucoup d'écrivains, notamment Marguerite Duras.
Qui n'a pas fait le disque.
Si, Marguerite Duras a fait un duo avec Jeanne Moreau, qui est sur cette compil. Si. Je l'ai vu une fois sur scène, on a réussi à se croiser quand même. Et je regrette, je suis pas allé le voir. Je n'ai pas osé lui parler, c'est un peu con. Je suis timide des fois. Et c'est extraordinaire parce qu'il est arrivé avec même pas un iPhone, un iPod. Un tout petit iPod comme le mien. Qu'il a branché sur un ampli. Et sur l'iPod, il y avait la musique. Et il chante avec un micro dessus, c'est tout. Voilà. Et c'est extraordinaire. Parce qu'il arrive à donner corps à ses chansons, à les mettre en scène, à faire participer le public. C'est vraiment un performer, c'est extraordinaire. Il y avait très peu de monde, mais ça marchait. C'est un artiste qui compte beaucoup pour moi. C'est un peu c'est mon grand frère que je connais pas, quoi. J'écoute tout le temps les trucs nouveaux et je fais un. C'est pas très. D'ailleurs, regardez, j'ai mis à côté de moi là, j'ai un.
C'est ce que tu vas vendre.
J'ai un cabas et je vais chez Hubert Lodeuf parce que je vais vendre des trucs que j'ai achetés et que j'ai écouté deux fois. Je suis pas très raisonnable, j'achète plein de disques.
J'achète beaucoup de disques.
Ouais, d'accord. J'achète beaucoup de disques. Donc quand on me demande qu'est-ce que t'as, je sais pas parce que.
T'en achètes.
J'en achète et j'en revends, ça circule. En ce moment, j'ai l'impression que là où ça se passe, des choses intéressantes, c'est la côte ouest américaine, en Californie. Il y a une espèce de revival 60s, mais assez débridé, assez, assez décomplexés. Ils n'ont pas peur de refaire. Ils ne refont pas forcément. Je crois que ça, c'est l'effet Internet. Avec Internet, on peut découvrir. Moi, quand j'étais gamin, pour aller chercher les disques, c'était compliqué, ça demandait des efforts, ça passait par des rencontres, c'était pas immédiat. Avec Internet, aujourd'hui, sur un clic, on peut découvrir la musique du monde entier tout le temps. Donc j'ai l'impression que ces gamins de la Silicon Valley, là, qui ont grandi comme ça dans un monde très technologique, ils ont besoin de... Parce qu'en fait, ils font des disques avec des vrais instruments, c'est pas du tout de la musique électronique, c'est une espèce de revival de ce qui se passait au même endroit il y a 30 ans. Sauf qu'ils ont les ordinateurs en plus avec eux, quoi, pour communiquer ou pour aller chercher les sources. Et donc ça donne des trucs intéressants. Il y a un type qui s'appelle Ty Segall, je ne sais pas si on dit comme ça. Je le trouve génial, il sort un disque tous les 6 mois, en dépit de tout esprit de marketing. Chaque disque est différent et explore un aspect particulier de la musique des années 60. Ça, j'aime beaucoup. Et puis je découvre en même temps, parce qu'il y a un truc que je connaissais pas. Il y a le dernier album de Bird of Canada aussi, que je trouve très très beau. Un groupe de musique électronique pas tout récent, mais qui sait se renouveler et qui fait une espèce de musique de fin du monde qui est un peu inquiétante, mais qui est très belle. Je voulais vous parler d'un groupe que j'ai. Mon dernier coup de cœur, c'est Deer Hunter. Mm-hmm. Encore un Américain. New Yorkais, je crois. Oui, New Yorkais, il me semble.
Qui a un particularisme. Dans la lignée de tes chanteurs.
Comment ?
Dans la lignée de tes chanteurs.
Ah oui, de mes chanteurs.
Non seulement charismatique, mais un peu
atypique. Un peu
ébranlé, un peu atypique, un petit peu. Qu'est-ce
un
qu'il
petit
a
peu
déjà,
cassé. Alors,
monsieur.
Ce monsieur, il souffre d'une maladie congénitale, on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est quelqu'un qui souffre dans son corps beaucoup. Bon, il ne le dit pas, il ne s'en plaint pas, mais c'est un petit peu la presse qui a révélé ça, parce que lui, il en parle assez peu. Et de cette souffrance, il fait de la musique, il fait du rock, et c'est assez poignant, et c'est extraordinaire. Pour moi, là, c'est l'un des grands musiciens du moment. On peut écouter sa musique sans comprendre ce qui se passe derrière, c'est pas besoin de savoir ça, il le transcende complètement. Et il sait s'entourer de gens qui lui permettent de s'exprimer assez librement. Il joue dans je sais pas combien de groupes. Il a joué sur le dernier album d'Animal Collective. Il est un peu omniprésent sur la scène rock indé. Il est sur le label 4AD, évidemment, qui est toujours aussi à la pointe du. Qui aime bien les personnalités comme ça, bizarre. Et son dernier album, Monomania, alors lui, il est complètement à contre-courant de toutes les règles actuelles. C'est un disque qui a été enregistré en 10 jours dans un studio pourri, mais avec des chansons qui sont écrites d'une manière très fine, très très écrite, très très mélodique. Et il a joué la carte de l'enregistrement immédiat, enfin un truc comme ça.
Presque avec un son un peu lofi.
Un son très lofi, limite crade. Et c'est un disque génial, Monomania. Voilà, c'est le 4e album de Deer Hunter et c'est loin d'être le plus mauvais. Donc ça aussi c'est intéressant parce que malheureusement souvent les groupes comme ça de rock, ça fait partie du jeu. C'est comme ça une poussée un peu adolescente. Les groupes font 2-3 disques de bon et puis après ça s'épuise. Là, Deer Hunter, je pense que c'est parti. S'il arrive à continuer, si son état physique le lui permet, je pense qu'il pourra nous apporter des choses bien parce que chaque album est meilleur que le précédent. Je pense que c'est un groupe qui va marquer. Sur scène, c'est assez beau, hein, parce que sur scène, alors les concerts sont toujours assez courts, parce que je pense que physiquement, ça va être un peu dur.
Très grand,
très très maigre, très difforme. Et il se donne à fond. Je l'ai vu sous deux formations différentes, Atlas Sound et puis Deer Hunter. Et Deer Hunter a quelque chose de... sur scène, ça fait beaucoup penser à Sonic Youth dans la manière de jouer de la musique. Mais avec un côté peut-être moins intello, plus immédiat, plus rock'n'roll. Ouais. Donc on finit avec lui. Dommage, j'étais passé à côté. J'avais oublié.
T'arrives sur la côte ouest. Non, New York.
New York. Là, on est à New York.
Ça vous va?
Ça
nous va, ça te va surtout ce mime.
Oh oui, j'espère que j'ai pas raconté trop de trucs.
Non, ça va. Ce qu'on va faire.
Ah merde, j'ai oublié.
Alors.
Ah oui, il y en a plein. Ouais.
Ça va arriver. Déjà en plus, il y en a
plein. Il y en avait encore dans le sac. Je vous dis ce que j'ai pas sorti.
Allez, juste comme ça on verra bien.
J'ai pas sorti Sonic Youth. J'ai pas sorti. Red House Painters,
d'accord. Nouvelle-Zélande.
Stereolab. Et Cure.
Et Cure, t'en as parlé.
Cure, oui, t'en as parlé.
Tu as parlé de Red Underdor et...
Ouais.